Le 1er mai 1993, il y en a qui étaient en culotte courte, certains même ici n'étaient pas nés, mais il s'est passé un événement. Monsieur Pierre Bérégovois se suicidait au bord du canal, d'un canal de la Nièvre, après avoir échappé à la surveillance de ses gardes du corps. Il venait de quitter le pouvoir, il était Premier ministre de la République, et suite à la défaite de la majorité présidentielle de François Mitterrand, eh bien, il a dû quitter son poste de Premier ministre, et peu de temps après, donc, il se tirait une balle dans la tête. Alors, bien que cette mort ait pu faire l'objet de spéculations, pour les plus anciens d'entre vous, peut-être vous vous en souvenez, certains ont parlé de complot, on a parlé de plongeurs qui étaient dans le canal, qui seraient sortis, tel James Bond, Bampan, voilà. Il était quand même admis que Pierre Bérégovois était dépressif, et il était surtout miné par des accusations sur l'octroi d'un prêt sans intérêt d'un industriel, alors ça vous dit peut-être quelque chose, Roger Patrice Pellat, un ami intime de François Mitterrand. Et donc probablement il était aussi, alors il y avait cette affaire là qui le poursuivait, et probablement en tant que Premier ministre il y avait une somme de critiques qui ont été accumulées, hein, puisqu'on ne fait pas de cadeaux en général aux membres du gouvernement. Et surtout que lui, c'était le seul ministre de la République depuis, je ne sais pas combien de temps, depuis que la République existe, qui était d'origine prolétaire. Hein. Il était d'origine prolétaire, il est vraiment monté, il a monté les échelons, il était ouvrier ajusteur. Et voilà, avec à force de courage, il a passé des diplômes, etc. Et alors, il n'a pas laissé de lettres, c'est pour ça que sa mort a jeté un doute. Il n'a pas laissé de lettres, mais il avait confié à un proche, avant sa mort, de vouloir imiter Roger Salengro. Alors, pour ceux qui habitent à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, à Mézieux, rue Roger Salengro, d'accord? Donc, Roger Salengro, lui, c'était un ministre de l'Intérieur du gouvernement de Léon Blum. Alors, ça nous rajeunit pas, 1936, le Front Populaire. Et donc, lui, il s'était suicidé suite à des calomnies. Hein, il y a des journaux à l'époque tendancieux qui l'avaient accusé. Il s'était suicidé le 22 novembre 1936. Et lui, il a laissé une lettre en disant: s'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, du moins, ils porteront la responsabilité de ma mort. Je ne suis ni un traître, ni un déserteur, a-t-il écrit. Et lors de ses obsèques nationales, je vous imaginez, Léon Blum, qui était donc président du Conseil du Front Populaire, ça c'est pour les cours d'histoire-géographie, pour les jeunes, a dit: il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Alors, je ne serais peut-être pas aussi catégorique que lui, mais la critique et la calomnie, c'est quelque chose de malheureusement très fréquent, et on peut chacun de nous, tour à tour, être à la fois victime ou bourreau. On peut être à la fois victime ou bourreau. Et j'aimerais ce matin que nous puissions voir qu'est-ce qu'en dit la Bible. Qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner dans ce domaine ? Et pour que nous puissions chacun devant Dieu nous interroger devant notre attitude dans ces deux cas, victime et bourreau. Et j'aimerais vous mettre au défi ce matin, peut-être à la fin de cette parole, de changer quelque chose dans votre attitude, que vous soyez victime ou bourreau. Alors côté bourreau, la Bible est claire. Dans les 10 commandements, en Exode 20, 17, je vous le cite, hein, mais vous le connaissez très bien. Il est écrit: tu ne porteras pas de faux témoignages. Ça, c'est tout le monde connaît les 10 commandements à peu près. Ce qui suppose de vérifier donc le témoignage que je vais porter. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Et le mot hébreu pour décrire ça, faux témoignage, signifie littéralement un mode de vie qui est contraire à la loi de Dieu. C'est plus fort que ça, c'est contraire à la loi de Dieu. Donc c'est vraiment une attitude de cœur que de porter un faux témoignage. Et c'est pour ça que David, dans le psaume 119, pouvait dire: « Seigneur, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Il y a vraiment un besoin de prière chez David parce qu'il savait qu'il était sensible à ça. « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta voie. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, et je vous invite à ouvrir votre Bible pour prendre ce texte, Éphésiens chapitre 4, Nous prendrons le verset 25. Éphésiens 4, 25. Paul écrit « C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Débarrassez-vous du mensonge et que chacun parle en vérité à son prochain. » Et plus loin, au verset 29, il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Peut-être que Pierre Bérégovoy et Roger Salengro a manqué de paroles de grâce, même vraisemblablement. Alors cet été, j'ai parlé sur la manière avec laquelle Jésus gérait la confrontation. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de ne rien dire. On peut dire des choses à quelqu'un, mais il suffit de les dire avec amour et vérité. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit cet été. Vous voyez le message qui concerne la confrontation dans les disciplines spirituelles de Jésus. Et ce matin, je ne voudrais pas être moralisateur. Donc je ne vais pas vous égrener une liste de versets de ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. On a lu ce texte d'Éphésiens. Je pense qu'il est très clair. Mais le plus souvent, le chrétien n'est pas bourreau, mais il est plutôt victime. Et je voudrais plutôt aujourd'hui insister là-dessus. C'est comment faire, ou qu'est-ce que la Bible nous dit lorsqu'on est victime de critiques, de calomnies, de remarques désobligeantes, etc. Et je vais m'appuyer sur un texte qu'on va lire donc dans le livre des Nombres, on va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres au chapitre 12. C'est que le livre des Nombres raconte les pérégrinations du peuple hébreu dans le désert. Il prend un peu de recul, c'est pas un livre historique comme l'Exode, mais plutôt un livre de synthèse. Et il nous cite un épisode très particulier qui n'est pas cité dans le livre de l'Exode et qui est assez édifiant. Donc je lis dans la version Colombe, Nombre chapitre 12. Myriam et Aaron, donc Myriam et Aaron, ce sont les frères et sœurs de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Donc les couchites, c'est les Éthiopiens, probablement c'est des descendants de Couch, des gens de race noire. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez-vous trois vers la tente de la rencontre. Ils sortirent donc tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. » Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam ait été réintégrée. Après cela, le peuple partit de Hatzéroth et campa dans le désert de Paran. Voilà un épisode quotidien de la vie du peuple, qui est assez édifiant. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qui est-ce qui est critiqué là dans ce passage? C'est Moïse. Moïse est critiqué. Quel est l'objet de sa critique? Quel est le sujet? Pourquoi on le critique? Voilà, il a pris une femme. Alors, c'est vrai que de nos jours, on pratique la monogamie, donc voilà, ça pourrait être condamnable aux yeux de la loi. À l'époque, les hommes prenaient plusieurs femmes. On le voit dans les patriarches, Jacob avait plusieurs femmes. Donc Moïse a pris une femme, une deuxième femme. Il était marié avec Séphora, qui était une Madianite, la fille du prêtre Madianite. Et donc il a pris une autre femme. Qui est-ce qui critique? Qui critique? Moïse et Aaron, d'accord, le frère et la sœur. Mais au-delà du frère et la sœur, Myriam et Aaron, excusez-moi. Myriam et Aaron, au-delà d'être frère et sœur, donc il est critiqué dans sa propre famille. Ça n'arrive jamais en fait. C'est rare. Mais au-delà de ça, Aaron, c'est qui dans le plan de Dieu? Oui, même un souverain sacrificateur, un chef de prêtre. C'est un leader. C'est un Benoît XVI ou maintenant c'est François. C'est quelqu'un de très important. C'est pas un homme du peuple. C'est un homme choisi par Dieu pour diriger le peuple de Dieu. Myriam, qui est Myriam? Qu'est-ce qu'il est dit de Myriam? Qu'est-ce que la Bible nous dit de Myriam? En plus d'être la sœur de Moïse. C'est une prophétesse, exactement. C'est une prophétesse. On voit que lorsqu'ils ont passé la mer Rouge, Myriam, donc là, il est dit, Myriam la prophétesse se mit à entonner un chant, etc. Donc elle était à la fois conducteur de louanges et prophétesse. Dans le livre de Michée, par exemple, il est parlé de Moïse, Aaron et Myriam, conducteurs du peuple. Donc c'est des conducteurs. On est entre conducteurs là. C'est pas des gens ordinaires. C'est des gens, des responsables de haut niveau. Des responsables de haut niveau. Des gens qui ont un rôle important dans le plan de Dieu. Aaron est le premier souverain sacrificateur. Derrière lui, il y aura toute la lignée des souverains sacrificateurs jusqu'à Caïphe et même plus loin, jusqu'à la destruction du temple. Donc ce sont des gens importants qui critiquent. Alors, quelle est la réponse de Moïse? Que fait Moïse face à cette critique? Avant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, vous avez raison, vous avez tous juste. Il fait rien. Il répond pas. Moïse ne répond pas. Puis ensuite, il joue, tu as raison François, il joue son rôle de grand intercesseur. Moïse, c'est le grand intercesseur. C'est celui qui a plaidé pour le peuple. Dans l'épisode du veau d'or, il a dit « Seigneur, s'il te plaît, ne les détruis pas. » Dieu était en colère et Moïse est toujours sur la brèche, le grand intercesseur. Donc qui est-ce qui répond à la critique? Ouais, c'est Dieu. Dieu règle le problème parce que justement Moïse se tait. Et qu'est-ce qui nous est dit de Moïse, la qualité de Moïse? Il est humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Alors si on regarde Moïse, à 40 ans, à la cour d'Égypte, paré comme un pharaon, et il est là, il voit son peuple maltraité, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il tue l'Égyptien. Est-ce que vous croyez qu'il était humble là? À mon avis, il était imbu de la sagesse égyptienne, il était tout sauf humble. Et la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Ça veut dire qu'en fait, il a progressé, durant toutes ces années passées au désert, il a progressé, pour arriver à une attitude de presque on pourrait dire passive, mais c'est l'humilité qui lui fait dire ça. Peut-être qu'il, sans répondre, peut-être on peut imaginer que Moïse se dit « Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas juste, peut-être je devrais partager une partie des responsabilités, peut-être que Dieu devrait se révéler à Moïse et à Aaron, c'est quand même mes frères et sœurs. » La Bible ne nous le dit pas, mais on sait que Myriam est la sœur aînée. Hein, Myriam, c'est la sœur aînée qui a mis Moïse dans le panier, qui l'a surveillé, qui est allé astucieusement proposer à la mère de Moïse d'allaiter pour la fille du pharaon. Donc c'est la sœur aînée qui a toujours veillé. Et là, mince, inversion des rôles, c'est Moïse le plus jeune. Alors Aaron, la Bible ne nous dit pas, enfin je n'ai pas trouvé, de savoir si Aaron est le frère aîné ou pas. Il est aîné, je crois, mais je n'ai pas trouvé. Bon, on va imaginer qu'il est aîné. Donc Moïse, c'est le dernier. Donc le dernier, en général, il a moins de droits. fils aîné, il avait double droit. Et mince, là, Moïse, il se retrouve, c'est Dieu qui lui parle et pas nous, quoi. Alors, au fond, si on veut, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Quel est le vrai problème derrière ça? Est-ce que c'est la femme couchite, le vrai problème? C'est quoi le vrai problème? Ben oui, c'est ça, la position de Moïse. Moïse, le petit frère, là, il passe devant nous, mais c'est quoi ça? Non, non, mais attends, nous, on n'accepte pas. C'est la jalousie, c'est l'orgueil. Et pourquoi pas moi? Moi, Aaron, je suis le frère aîné. Ils ont dû intriguer tous les deux, ils ont dû se mettre d'accord, Moïse et Aaron. Myriam, c'est dur ce matin. Bon, je bois un coup. Hein. Ils ont dû intriguer tous les deux. C'est la difficulté, en fait, pour Myriam et Aaron d'accepter ses dons, d'accepter sa position. Parce que c'est pas qu'ils n'aient pas une position importante. Ils ont une position importante, mais ils n'ont pas la première. Ils n'en ont pas bavé autant que Moïse, peut-être, dans le désert, on ne sait pas. En tout cas, ils ont du mal à accepter leur don. Dieu leur a donné à Myriam un don de prophétie et un don dans la louange, et il a nommé Aaron souverain sacrificateur. Donc, vraiment des places importantes qui devraient satisfaire leur peu d'ego. Eh bien non, ils ont du mal à se contenter de ce que Dieu leur a donné. Et vous voyez, dans le livre des Hébreux, tout à l'heure Colin nous a lu dans Hébreux, Hébreux 13:7 nous dit... Alors, ça parle de l'argent, hein. Je ne veux pas détourner le sens du texte, mais il est dit « Contentez-vous ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Aussi, nous pouvons dire avec assurance « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte que peut me faire des hommes ». Alors, peut-être que Moïse, par la foi, il a été quelque part inspiré par un verset comme ça. « Que pourrait me faire des hommes ?» C'est peut-être pour ça qu'il s'est tu, finalement. Il a laissé la place à Dieu, il a laissé Dieu régler le problème. Parce que voilà, quand on a du mal à se contenter de ce que Dieu nous a donné comme don, comme qualité, on veut toujours plus, on veut être comme lui, comme voilà, et pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi moi et pas lui, etc. Comparaison, orgueil, jalousie. Donc c'est important d'examiner quelle est ma vraie motivation. Derrière une parole, derrière une critique, quelle est ma motivation? Et c'est souvent ce qu'on appelle une fausse barbe. Ah oui, la femme couchite, ah ben, ça tombe bien, on va lui faire porter le chapeau. Et cette attitude de Moïse, je trouve, est remarquable, parce qu'il ne dit rien. Il prend du recul. Il ne réagit pas au quart de tour. Moi, j'aurais probablement réagi, ouais, c'est injuste et tout. On a tous un très haut sens de la justice en nous, hein, et de l'injustice, surtout en notre faveur. Et Moïse, probablement, 40 ans auparavant, il n'aurait pas réagi comme ça. Parce qu'il est devenu humble, parce qu'à force d'entendre le vent souffler dans les buissons, à force d'entendre les moutons bêler, à force d'entendre le silence du désert, eh bien, Dieu a travaillé son caractère, il a travaillé son cœur pour pouvoir affronter une situation comme ça. C'est le philosophe romain Platon qui disait « Si les gens parlent mal de vous, vivez de manière à ce que personne ne le croit. » Je répète, « Si les gens parlent mal de vous, vivez de manière à ce que personne ne les croit. » Alors on va regarder ce que faisait Jésus face à la critique, parce que Moïse, c'est bien gentil, Moïse est un homme, il est imparfait, il a failli, mais on a un Seigneur qui n'a jamais failli. Est-ce que Jésus a été critiqué à votre avis? D'accord, on est d'accord. Alors ouvrons notre Bible en Matthieu chapitre 12. On ne va pas tous les passer en revue. J'ai choisi un ou deux versets, enfin un ou deux passages plutôt. Matthieu chapitre 12, verset 22. Matthieu 12, 22. Alors, on amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait: n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens l'ayant appris dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, donc là, même question que tout à l'heure, quelles sont les motivations? Jésus connaît les pensées, donc il connaît exactement les motivations, mais on peut nous imaginer, même si on n'est pas Jésus, à connaître les pensées. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume des dieux est donc parvenu, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et je passe au verset 35. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Et le mot « vain » ici, toute parole « vaine » signifie littéralement « parole stérile », »,« parole infructueuse », »,« parole qui ne sert à rien », et qui contraste avec le texte d'Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, qui sort de votre bouche toute parole qui serve à l'édification. Donc ici, quelle est la cause de la critique, à votre avis ? Pourquoi les pharisiens reprochent à Jésus de chasser les démons par Belzébul ? Non, des idées ? La jalousie, oui, tout à fait. Probablement la jalousie. Jésus est une menace pour leur popularité. Eux, ils sont tranquilles, ça fait des années que ça dure, ils se passent de père en fils, ils dirigent le pays, ils ont mis 600 et quelques règles en place pour bien verrouiller le système. Donc un système rigide qui est en place. Et Jésus vient et dénonce le système. Alors bien sûr, ils sont jaloux. Et puis, ça menace leur popularité. Alors dans ce cas précis, que fait Jésus donc face à la critique ? Qu'est-ce qu'il fait là dans le texte qu'on a lu ? Comment il réagit à la critique ? Oui, certes. Indeed, comme diraient les anglo-saxons. Genau, pour les Allemands. Hein, c'est ça ? Elle n'est pas là ? Non, elle est partie à l'école du dimanche.
Il retourne la situation.
Oui, il retourne. Alors comment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait en pratique là ? Comment il utilise cette situation en fait ? Parce que vous êtes bien d'accord, il se défend pas. Il se défend pas, pas directement. Qu'est-ce qu'il va... Alors, il pose une question. Comment une maison peut-elle subsister ? Donc, il pose une question, ça c'est une bonne chose. Mais surtout, il profite en fait de ça pour donner un enseignement. Il y a un enseignement qui... Pardon ? Voilà, il pointe une incohérence. Ça, c'est donc la définition d'une confrontation. Il pointe une incohérence en disant, bah oui, si c'est par Belzébul, alors vous, vous faites quoi ? Mais surtout, il en profite pour donner un enseignement, pour dire le royaume de Dieu s'est approché, parce qu'il fait le lien entre la guérison, il a quand même fait du bien, il a guéri, et l'arrivée du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans les prophéties de l'Ancien Testament, le Messie qui devait venir, la venue du Messie se traduirait par des guérisons. Donc il est en train de faire le lien, d'expliquer, parce qu'il n'y a pas que les pharisiens, il y a toute la foule qui écoute ces confrontations, et donc il explique que le royaume de Dieu s'est approché. Et il donne ensuite un enseignement capital, hein, on a conclu par ça, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Et ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à moi, en premier, parce que je suis en train de vous donner des paroles. Donc si j'ai une parole vaine, stérile, infructueuse, je vais en rendre compte. Et chacun de nous, nous allons rendre compte de toute parole vaine que nous aurons prononcée. Donc c'est une grosse responsabilité. Donc Jésus, effectivement, retourne la situation, il ne se défend pas, il ne dit pas « Oui, mais regardez, c'est injuste que vous m'accusiez, vous vous rendez compte, je viens de guérir un malade et vous, vous me critiquez. » Moi, j'aurais tendance à faire ça. Mais Jésus profite de la situation pour délivrer un enseignement fondamental. C'est « Le royaume de Dieu s'est approché, la preuve c'est que j'ai guéri Et en plus, attention à vos paroles. Et on a, pour gagner du temps, j'ai pas lu, mais il y a tout l'enseignement sur le blasphème contre le Saint-Esprit, ce fameux péché qui ne sera jamais pardonné. Donc il profite de cette situation, dans ce cas précis de critique, pour enseigner une vérité profonde. Les hommes devront rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Et lorsqu'il parle dans le sermon sur la montagne, il aura déjà dit, quand vous parlez, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Soyez clair dans vos paroles, soyez sobre, soyez clair, que votre oui soit oui. Tout ce qu'on ajoute vient de du malin, voilà. Donc, sobriété en parole, ça je me parle à moi, ma famille peut en témoigner ici, sobriété en parole, et attention, nous devrons rendre compte de toute parole vaine que nous aurons prononcée, y compris dans le fond de notre cœur. On va prendre un autre texte où Jésus aura une attitude un peu différente. Matthieu 26, verset 59. Donc là, Jésus est traduit devant le Sanhédrin. Il est devant son tribunal qui va le juger. Les principaux sacrificateurs, donc Matthieu chapitre 26, verset 59. Ça me fait plaisir d'entendre des pages de Bible qui tournent. Ça montre qu'il y en a qui suivent, parce que j'affiche rien là. Alors bien sûr, je peux vous lire ça, mais quand on lit dans sa Bible, c'est bien. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Toujours la même motivation, hein. Pourquoi ils veulent le faire mourir? Parce qu'il vient bousculer leurs habitudes, leurs traditions. Il vient les dénoncer, il vient pour, voilà, dénoncer leur hypocrisie. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint d'eux qui dirent, celui-là a dit, je suis, celui-là a dit, je puis détruire, pardon, le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva, il lui dit, ne réponds-tu rien, de quoi témoigne-t-il contre toi? Jésus garda le silence. Jésus garda le silence. Et après, il y a donc une autre discussion qui entre en jeu, parce que le souverain sacrificateur est tellement désarçonné qu'il va lui tendre un méga piège en lui disant, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il l'oblige à dire un blasphème pour pouvoir l'accuser. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Ben oui, Jésus, il ne va pas nier qu'il est le Fils de Dieu. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Le souverain sacrificateur déchire ses vêtements et utilise donc son propre piège pour condamner Jésus. Mais là, en l'occurrence, la critique sur le faux témoignage, eh bien, Jésus ne répond rien. Jésus garde le silence devant le grand prêtre. Et on pourrait lire plus tard, au chapitre 27, verset 11, il est devant Pilate, et c'est pareil, il ne répond rien. Pourquoi est-ce qu'il garde le silence dans ces cas-là, à votre avis? Pourquoi Jésus ne répond rien?
Parce qu'il a parlé parmi les foules, déjà.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a expliqué. Surtout parce qu'on a affaire à un procès truqué. Le procès est truqué de A à Z. Donc, voilà, c'est ça. Alors, il y a deux choses. Il y a un procès truqué, et puis il y a le fait qu'il doit mourir. Mais il pourrait très bien se défendre en disant, vous m'accusez à tort, regardez tout ce que j'ai fait des bonnes choses parmi vous, et voilà où j'en suis, blablabla. Enfin, moi, si j'étais à la place de Jésus, j'aurais sûrement fait comme ça. Sa mort était décidée, c'est le plan de Dieu. Donc il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est pas pour ça que, voilà, il a une attitude de silence parce que pour lui, ça ne vaut pas le coup de se mettre sur le plan de la vérité avec des gens qui sont dans le mensonge. Il est entouré là de gens qui sont dans le mensonge, ce que j'ai dit tout à l'heure, la signification du mot hébreu, qui veut dire littéralement faux témoignage, c'est un mode de vie contraire à la loi de Dieu. Donc on a des gens qui représentent la loi, mais en réalité qui vivent contraire à la loi de Dieu. Donc il ne va pas se mettre sur le même plan, parce que lui, il est la lumière et la vérité, eux, ils sont dans les ténèbres. Il les a dénoncés plusieurs fois, il y a eu des affrontements, des oppositions, à chaque fois, ça a été la même chose. Donc le procès est truqué, Jésus ne peut rien faire, c'est une cause perdue, et il ne va pas dépenser beaucoup d'énergie là-dessus. Il nous montre par cette attitude-là, il nous montre que dans ces cas-là, eh bien, ça ne vaut pas la peine de répondre. Peut-être Moïse était dans ce cas-là, je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas en tout cas. Et puis une troisième attitude qui est intéressante à observer, on va ouvrir la Bible en Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 22. Donc ce passage n'est que dans l'évangile de Jean, on a ce petit détail qui est intéressant. Jean chapitre 18, verset 22. À ces mots, donc toujours pareil, il est devant Anne et Caïphe, hein, les souverains sacrificateurs. Caïphe, hein, souverain sacrificateur. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, prouve-le, prouve ce qu'il y a de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Voilà, la gifle du garde du souverain sacrificateur. Et là, donc, c'est une critique qui se transforme en violence physique. Une grosse gifle. À mon avis, il n'y est pas allé de main morte, le garde. Et là, Jésus, encore une fois, il ne se défend pas, mais il demande simplement des explications. « Ok, je comprends, tu me gifles là, donc c'est peut-être justifié. Donc, je veux bien accepter de prendre la gifle, mais dis-moi pourquoi tu le fais. Dis-moi quelle est ta motivation. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal, parce que tu me frappes. Mais par contre, si j'ai bien parlé, bah, je ne comprends pas ton geste. » Là, innocemment, on va dire que de manière très détachée, il demande des explications. Donc Jésus a été fortement critiqué. On a pris quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, soit il profitait pour les enseigner, il tirait de cette critique un sujet d'enseignement, ou bien il gardait le silence quand ça n'en valait pas la peine, ou bien il demandait des explications. Mais en tous les cas, il y a une chose remarquable dans l'attitude de Jésus, c'est qu'il ne se laissait pas affecter par la critique dans son identité. Pourquoi il pouvait ne pas se laisser affecter? Parce que Jésus était très conscient de qui il était. Il était très conscient de son identité. Il savait qui il était, il savait d'où il venait, il savait où il allait, il savait pourquoi il était là, quelle était sa mission. Et Jésus, son but, c'était de poursuivre sa mission. Alors bien sûr, et ça c'est une caractéristique générale, chaque fois que nous allons faire quelque chose pour Dieu, ou que nous allons prendre une initiative, un risque, quelque chose qui va nous rendre visible, qui va mobiliser les gens, qui va faire bouger des lignes, à chaque fois, ça va forcément générer des commentaires, des remarques, des critiques, de la violence, de l'opposition. Il n'y a qu'à aller dans les pays musulmans quand quelqu'un prend position, chrétien, veut évangéliser, tout de suite, il y a des choses, des oppositions, des critiques. Et Jésus ne se laissait pas affecter dans son caractère, dans son être, parce que sa sécurité était placée en Dieu. On a vu tout à l'heure que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il est à côté de nous. Et il a plusieurs rôles, mais un des rôles majeurs qu'il exerce aujourd'hui, après avoir été la victime, après avoir été avant d'être le roi et après avoir été la victime, il est aujourd'hui l'avocat, l'intercesseur pour chacun de nous. Et Jésus, pourquoi il pouvait réagir comme ça? Parce que sa sécurité était en Dieu. Dieu avait mis toute son affection en lui. Et donc, il ne laissait pas la critique affecter son identité d'enfant du Père. Comme nous pouvons, en imitant Jésus, ne pas nous laisser affecter par notre attitude, dans notre attitude d'enfant de Dieu. Parce qu'une critique, quelle qu'elle soit, ne va pas menacer notre position par rapport au Père, ne va pas menacer notre amour par rapport au Père. Par contre, si je me laisse aller à ma chair, je vais réagir avec ma chair, et là, je vais me laisser perturber, troubler. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire face, justement, à cette critique? Comment peut-on faire pour faire face à cette critique? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui nous empêche de bien gérer la critique? Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais insister. C'est que très souvent, je parle pour moi aussi, je me mets sur la défensive. Dès que la critique arrive, je me mets sur la défensive. On dit de l'air de dire, j'ai tellement peur que ça m'affecte, que ça me déstabilise, que voilà, je me mets sur la défensive, je commence à argumenter. Ça, c'est une première réaction. Ensuite, on peut se mettre en colère. Ah, tu me gaves, arrête, ça suffit. Ça ne va pas arranger les choses, parce que l'autre, s'il critique d'un air malveillant, ben, ça va conforter en fait sa critique, il risque de continuer. Ou bien, ça peut être l'orgueil. Comment ça? Lui? Ben, pour qui il se prend pour me dire ça? Ou bien alors, un désir de revanche. Ah, d'accord, je te vois venir là. Tu ne perds rien pour attendre. Ou encore l'amertume. Bien critiqué, tiens, tu vas voir, toi, jamais je te pardonnerai. Hein. Jamais. Ça, c'est des mots qui ont été prononcés par Aimé Jacquet, sélectionneur de l'équipe de France, victorieux en Coupe du Monde. À la fin de la Coupe du Monde, sifflet final, France-Brésil, 3-0, interview des journalistes, interview de la télé, et devant tout le monde, Jacquet qui dit, quand on lui pose la question, oui, mais bon, voilà, on vous a critiqué, puis finalement, vous avez quand même bien réussi et tout. Il dit, jamais je leur pardonnerai. Vous en souvenez, hein, pour les plus vieux, avec les cheveux blancs. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui nous empêchent, parce que c'est les œuvres de la chair. Alors, j'aimerais conclure par deux ou trois pistes sur, finalement, comment est-ce qu'on peut gérer cette critique. Comment est-ce qu'on peut gérer la critique? Alors, comme je le disais tout à l'heure, toute initiative va être critiquée. Donc ce n'est pas une question de savoir si vous allez être critiqué ou pas. Dès que vous allez prendre des initiatives, faire quelque chose pour Dieu, pour quelqu'un, vous allez être critiqué. Voilà, il faut le savoir. Enfin, au moins dans mon expérience. La clé, c'est de bien vouloir accepter d'entrer comme étudiant à l'école de la critique. Je vous suggère d'entrer comme étudiant à l'école de la critique. Il y en a qui ont quitté les bancs de l'école il y a un moment, moi le premier. Mais entrer comme étudiant à l'école de la critique, peut-être ça peut former le caractère. En tout cas, si on regarde l'exemple de Moïse, l'exemple de Jésus, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Premièrement, eh bien, rester humble pour affronter honnêtement cette critique. Rester humble, pas réagir au quart de tour. Parce qu'une critique, même si elle est mal formulée, là, je vous renvoie encore au message sur la confrontation. Il y a des moyens de bien formuler quelque chose. Une critique peut s'avérer constructive. Donc, ça vaut la peine, peut-être, de l'écouter jusqu'au bout. Peut-être que la personne qui a émis cette critique a de bonnes raisons. Et il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des pépites à extraire. Parce que je sais que je ne suis pas parfait, donc je peux être enseigné aussi, même si c'est mal formulé, même si ça me blesse, sur la manière avec laquelle c'est formulé, peut-être je peux en tirer quelque chose. En tout cas, il est important de discerner quelles sont les motivations sous-jacentes. Parce que derrière un habillage de critique constructive, parfois il y a des gens mal intentionnés ou des gens jaloux simplement. La jalousie, ça a un lien avec l'orgueil. C'est pourquoi lui, pourquoi pas moi? Alors peut-être que vous êtes jaloux parce que je parle aujourd'hui. Alors, si quelqu'un veut venir à ma place pour parler, qu'il vienne, hein, sans problème, je vous laisse la place. Je n'ai pas d'enjeu pour venir parler devant vous. Et puis, ça me pose la question de ma valeur. Est-ce que ma valeur dépend de ce que les gens disent de moi? Ça, c'est la question. Quelle est ma valeur? En tout cas, la valeur que la Bible attribue à chaque enfant de Dieu, c'est une valeur inestimable. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or. Aujourd'hui, il y en a qui se battent pour de l'argent et de l'or, même pour des pots de Nutella. Donc, pour de l'argent et de l'or, ils se battent. Mais la Bible nous dit, par la bouche de l'apôtre Pierre, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que j'ai été racheté, mais par le sang précieux de Christ. C'est ça ma valeur. Et si je sens ma valeur faible, alors je vais être abaissé et moi-même, je suis sujet à critiquer. Souvent, les gens qui critiquent sont des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Et donc, ils vont rabaisser les autres pour se sentir mieux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les analyses psychologiques, mais la racine est souvent ici. Donc discerner les motivations sous-jacentes. On a vu que pour Myriam et Aaron, c'est la jalousie que leurs frères prenaient de plus en plus d'importance. Et Dieu confirme ça, et c'est OK pour Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchie. Il y avait un homme à ce moment-là à qui Dieu parlait face à face, et c'est OK pour Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme, à un moment donné, il choisit les uns pour ça, les autres pour ça. Dans le ciel, on est traité de la même façon. On est traité de la même façon, on a accès au salut. C'est la parabole des ouvriers embauchés la dernière heure. Hein? Quelle que soit l'heure à laquelle on rentre, on a le salut gratuit. Voilà. Donc pour Dieu, c'est OK. Il faut qu'il y ait des leaders. Moïse était un leader. Aaron et Myriam aussi, mais différemment. Voilà. Et très souvent, la critique, on prend un autre prétexte. Parce qu'on n'ose pas, celui qui critique n'ose pas dire la réalité des choses. N'ose pas dire qu'il est jaloux d'eux. Comme Myriam et Aaron. Alors, ils prennent un prétexte. Ah, la femme couchite. Voilà. Donc, quand même, regardez, différenciez la critique constructive de la critique destructrice. Regardez au-delà. Est-ce qu'il y a une bonne vérité à prendre dans ce qu'on me dit? Et puis, il faut être clair quant au problème et ses conséquences. Bien décrypté, c'est exactement ce que fait Dieu. Dieu s'occupe de la situation. En tout cas, ce que ça doit nous apprendre, c'est que soi-même, bien se garder de critiquer. Comment je vais apporter une critique constructive? Alors critiquer, c'est vraiment la critique calomnieuse. Hein, vous savez la différence entre la médisance et la calomnie. La médisance, c'est exagérer, colporter des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais vraies. La calomnie, c'est des choses fausses. Mais une critique constructive peut être intéressante. C'est parfois enlever la paille de l'œil du voisin, c'est l'aider, à condition qu'on enlève sa poutre d'abord. Voilà, donc c'est pas facile. C'est Marshall Shelley qui disait, lorsque tu es attaqué par un dragon, n'en deviens pas un toi-même. Lorsque tu es attaqué par un dragon, n'en deviens pas un toi-même. Et puis une autre suggestion que j'ai envie de vous faire, c'est de prier pour ceux qui critiquent. Comme fait Moïse, il le fait dans un second temps, mais Moïse va intercéder. Moi, si j'avais été à la place de Moïse et que j'écoute ma chair, mon caractère un peu emporté parfois, eh bien, j'aurais dit, non, pas question Dieu, je ne veux pas prier pour Moïse et Aaron, ils ont qu'à se débrouiller, elle a qu'à rester avec sa lèpre. Hein, on a envie de réagir comme ça. Ben, Moïse, c'est remarquable parce qu'il est allé au-delà et il a même prié. Il a suivi ce que Jésus disait, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et puis, une autre suggestion que j'ai envie de vous faire, c'est qu'une personne qui vient vous critiquer, demandez-lui qu'elle prie pour vous. Puisqu'elle voit quelque chose de pas bien chez vous, demandez-lui qu'elle prie pour vous. Ah, écoute, viens prier avec moi. Aide-moi à me sortir de là. Puisque ça ne te convient pas, aide-moi à sortir de là. Essayez, vous verrez. En tout cas, je crois que cette personne-là a besoin, comme Moïse intercède pour Myriam et Aaron. Myriam, elle a quelque chose de visible, elle a une lèpre, on a envie de prier pour elle. Mais je vais dire qu'une personne peut-être qui critique de manière injustifiée, elle a aussi une sorte de lèpre en elle, une insécurité intérieure, une incompréhension de l'amour de Dieu. Elle a besoin peut-être d'être aimée, etc. Et donc, prier pour cette personne, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire si c'est vraiment une calomnie ? Si je suis vraiment sûr qu'il n'y a rien de constructif, que c'est vraiment une calomnie, qu'est-ce que je fais là, dans les choix de Jésus? Est-ce que je me tais? Est-ce que j'en profite pour enseigner? Je fais quoi? Oui, on peut bénir la personne. Mais si une calomnie arrive, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Pardon? Oui. On garde le calme. Mais on n'est pas obligé d'accepter quelque chose. On peut très bien dire à la personne qui nous calomnie, écoute, ce que tu dis, ça t'appartient, mais moi, je n'accepte pas ça. C'est Eleanor Roosevelt, la femme du président américain, qui disait, personne ne peut vous rabaisser si vous lui en donnez l'autorisation. Personne ne peut vous rabaisser si vous lui en donnez l'autorisation. Donc si vous acceptez ce que la personne vous dit, tacitement, ou si vous dites rien, dans ces cas-là, tacitement, c'est comme si vous disiez, bah, t'as raison. Donc vous pouvez dire, bah, écoute, moi je n'accepte pas ce que tu me dis. C'est Billy Graham, hein, on raconte cette histoire qui est vraie, hein, lors d'une conférence de presse, il a été très critiqué par les journalistes. Et alors, il s'est arrêté à un moment donné et il a dit, écoutez mes frères et sœurs, donc il s'adressait à d'autres chrétiens qui étaient là, prions ainsi. Et il s'est mis à prier, Seigneur, aide-nous à ne pas nous sentir coupables de ce que ces gens disent sur nous. Seigneur, aide-nous à ne pas nous sentir coupables. C'est-à-dire, en gros, aide-nous à ne pas nous laisser atteindre. Il était sûr qu'il était dans le vrai pour cette chose-là. Et donc, il a prié dans cette direction-là. Et puis, un dernier truc, peut-être, c'est d'utiliser l'humour. Parfois, c'est une bonne arme. Les analystes transactionnelles diraient, c'est mobiliser l'enfant libre chez la personne. Il y a ce témoignage d'un jeune évangéliste philippin qui, à un moment donné, célébrait des obsèques d'un grand pasteur local. C'est une personne, pas le pasteur, mais le jeune évangéliste philippin, j'ai oublié son nom. Et donc, il prêchait donc à ses obsèques. C'est quelqu'un d'un milieu très modeste, hein, qui s'est converti, qui est devenu évangéliste. Et à un moment donné, pendant qu'il prêchait, enfin, pas qu'il prêchait, mais qu'il présidait un culte de baptême, il y a un opposant farouche du christianisme dans la salle qui s'est levé et qui l'a interpellé en disant « Hey, j'ai une question !» Et il voulait l'embêter, il voulait le déstabiliser, un peu comme les pharisiens avec Jésus. Alors le jeune pasteur ne s'est pas démonté, il a dit « Attendez, laissez-moi terminer et on viendra à votre question à la fin. » Donc il a terminé son sermon. Puis à la fin, donc, Précesso, il s'appelait. Il revient vers lui et lui dit, monsieur, allez-y, posez votre question. Alors l'autre, il se dit, chouette, je vais le coincer. Il lui dit, Jésus a dit que vous, donc en tant que disciple, vous feriez des choses plus grandes que lui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, Précesso, donc il s'adresse aux jeunes, qu'est-ce que vous allez faire de plus grand que ce que Jésus a fait? Alors Précesso lui répond, écoute, oui, Jésus il a parlé à des foules, mais aujourd'hui moi, grâce à la radio, lorsque j'annonce l'évangile, je parle à des millions de personnes qui entendent mon message. Je peux m'adresser à beaucoup de personnes à la fois. Non, dit l'autre, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Tiens, vous êtes en train de célébrer les obsèques là, est-ce que vous pouvez ressusciter ce jeune mort? Voilà, il le met au défi. Alors l'autre se démonte pas, et il lui répond, « Ok, qui est-ce que vous voulez que je ressuscite ?» Et Précesso répond, « j'ai envie de vous ressusciter, vous. Donc, mettez fin à vos jours, et moi, je vais vous ressusciter. Si j'y arrive, c'est moi qui aurai raison. Mais si, c'est vous. Si j'y arrive pas, c'est vous qui aurez raison. » Et là, tout le monde s'est mis à rire. Et il a démonté un site critique qui était... Et l'autre est parti dans ses retranchements. Voilà. Donc, parfois, l'humour, ça peut être... tout le monde n'a pas cette répartie. Et si on n'a pas cette répartie, eh bien, il reste, à mon avis, la chose la plus importante à faire, c'est remettre les choses à Dieu. Peut-être ce que Moïse a fait, ce que Jésus a fait lorsqu'il a gardé le silence. Parce que l'apôtre Pierre nous dévoile ensuite dans l'une de ses lettres que Jésus injurié ne rendait pas d'injure, maltraité ne faisait pas de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Et Moïse a patienté, il n'a rien répondu, il a laissé les choses dans les mains de Dieu. Et vous avez vu comment Dieu est intervenu de manière rapide, violente, très ferme. Alors je ne dis pas que Dieu va intervenir sur toute critique que vous allez subir, mais sachez que Dieu entend ça. Et que si vous êtes la victime aujourd'hui de critiques répétées, eh bien Dieu connaît votre situation. Et ce qu'il vous encourage à faire, et ce que je vous encourage à faire, c'est vous focaliser sur votre mission. Qu'est-ce que Jésus vous demande de faire sur cette terre? Continuez à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, comme nous dit l'apôtre Paul, en sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est 1 Corinthiens 15 qui dit ça. Alors voilà mon défi du début, je vous le relance. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie aujourd'hui? Une chose à changer pour être différent face à la critique, que vous soyez bourreau ou victime. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.